Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
La semaine dernière, dans Antiquissimo, vous avez fait la connaissance de Sophie Madeleine, ingénieure de recherche, directrice du Centre de la réalité virtuelle de l'Université de Caen-Normandie. Et nous vous avions annoncé sa venue au Forum du Livre Péplum. C'est chose faite depuis dimanche dernier et nous allons l'écouter à nouveau. Mais auparavant, son collègue et complice Philippe Fleury expliquera le pourquoi du comment de cette aventure de la restitution de Rome, dans les Nocturnes de Rome, on en a parlé, et cette aventure de la restitution, plus spécialement, du stade de Domitien. On l'écoute.
Vous vous demandez peut-être, je vous le disais, pourquoi à Caen on travaille sur la Rome antique, hein, ce serait plus naturel ici à Nîmes de travailler sur la Rome antique. Alors nous, on n'a pas de magnifiques arènes comme les vôtres, mais on a cet objet qui est tout à fait étonnant, tout à fait exceptionnel, qui est une grande maquette de la Rome antique. Quand je dis grande, elle fait 12 mètres sur 6. Et il n'y a que trois grandes maquettes comme ça dans le monde. Il y a celle-ci, qui a été faite par un architecte normand, qui s'appelle Paul Bigot. C'est en fait un envoi de Rome. Il était Grand Prix de Rome en 1900, et comme tous les Grands Prix de Rome, il devait envoyer à la fois un état des ruines et une restitution des ruines, comme on disait. Alors généralement, ses collègues faisaient ça sous forme d'aquarelle, et lui, son sujet, c'est le grand cirque. J'en pourrais pas le grand cirque, conduire à tout. Son sujet, c'est le grand cirque, et il a choisi de faire d'abord une maquette du grand cirque, et puis ensuite, au lieu de rester 3 ans à Rome, comme tous les pensionnaires, il est resté 11 ans. Il est resté 11 ans, il a fait la ville entière. Et nous, on a hérité de cette maquette, je ne dis pas pourquoi tout de suite, mais donc maintenant, elle est à l'université de Caen. Il n'y en a que 3 dans le monde, au total, de maquettes comme celle-là. Il y a donc celle de Paul Bigot. À Caen, il y a une copie de celle de Paul Bigot à Bruxelles. Et une autre maquette qui a été faite quelques décennies plus tard par un Italien qui s'appelle Gismondi, qui est dans un musée à Rome, mais qui est malheureusement fermé depuis très longtemps. Hein. Et qui aura du mal à rouler. Alors, cette maquette, en 1994, on a décidé de la remettre en valeur dans un nouveau bâtiment, et à cette occasion, nous avons lancé la constitution d'une maquette virtuelle. Alors, la maquette de Paul Bigot ne sert pas de base pour faire cette maquette, n'est pas une base, mais c'était le prétexte. C'était le prétexte, on s'est dit, on met en valeur la maquette de Paul Bigot, mais les sciences humaines, on est capable aussi de refaire ce que faisait Paul Bigot il y a presque, il n'y a pas un siècle, il faisait quasiment un siècle. Et alors cette maquette, on l'a fait à la fois dans un objectif scientifique, c'est-à-dire pour continuer à poursuivre les études sur l'architecture, l'urbanisme de Rome, mais également dans un objet pédagogique, pour montrer aux étudiants, aux élèves, au grand public, ce qu'était cette ville de Rome, en choisissant la même époque que Paul Bigot, le 4e siècle après Jésus-Christ. Alors cette maquette ne vient pas remplacer celle de Paul Bigot, qui est magnifique, qui est un objet d'art qu'on met en valeur aussi, qu'on présente, mais elle vient en complément, sachant avec deux intérêts. D'abord, on peut la corriger. On peut corriger la maquette. C'est que la maquette de Paul Bigot, c'est l'état des connaissances en 1930, en gros, puisqu'il a travaillé dessus jusqu'à la fin de sa vie, mais bon, la connaissance, c'est celle des années entre deux guerres. Donc on peut, et on n'a pas envie d'y toucher, c'est un objet historique. Puis c'est bien aussi de conserver l'état des connaissances sur Rome à cette époque-là, puis l'objet est magnifique. Donc ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, dans la maquette de Paul Bigot, souvent quand on fait visiter aux élèves, on nous demande est-ce qu'on peut rentrer, est-ce qu'on peut marcher dessus. Ben non, on ne peut pas marcher dessus. Hein, bien sûr que non. Par contre, là, dans la maquette virtuelle, on peut rentrer dedans. Alors aujourd'hui, on ne va pas vous présenter tout Rome, mais il nous faudrait plusieurs jours pour le faire. On va simplement vous présenter un monument qui était extrêmement rare dans le monde occidental romain, qui est même unique dans les tables de connaissances actuellement, un stade. Un stade construit par Domitien. Domitien, on en dira un mot, c'est un empereur qui est très mal connu, parce que comme Néron, sa mémoire a été condamnée. Mais il a joué un rôle dans l'urbanisme et l'architecture de Rome qui est tout à fait exceptionnel. Et Sophie vous le montrera tout à l'heure aussi dans la vie virtuelle, ce monument est absolument extraordinaire, non, pas seulement parce qu'il est unique, mais extraordinaire aussi dans sa conception architecturale. Et vous allez voir tout le rapport qu'il a avec le Tillium. C'est vraiment un édifice créé pour le loisir, dans un secteur de loisir que le Champ de Mars. Alors je vous propose, en cinq temps, de voir d'abord ce qu'étaient les jeux du stade dans l'Antiquité, de voir pourquoi Domitien a fait ce stade. Voir aussi comment les Romains, dont on dit qu'ils ne se sont pas beaucoup intéressés à l'athlétisme de type grec, ce qui est faux, mais de voir à quel point ce sont eux finalement qui ont monumentalisé les stades dans le monde, dans l'ensemble du monde qui était devenu romain, mais dont une partie était grecque à l'origine. Vous dire quelques mots si vous avez envie, enfin, vous connaissez certainement déjà la place Navone à Rome, mais si vous avez envie de voir les restes du stade de Domitien à Rome, vous montrez où on les trouve, et puis Sophie vous emmènera bien sûr visiter ce stade dans son état du 4e siècle. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un stade en Antiquité? Un stade, le mot stadion, qui a donné stadium, enfin ce qui a été calqué en latin avec le mot stadium, c'est une mesure de longueur. En gros, c'est 200 mètres, à peu près 200 mètres. Et, point de vue architectural, ça désignait une piste de course de 200 mètres. Alors, un stade, on en trouve dans tous les sanctuaires panhelléniques. Les sanctuaires panhelléniques, c'était dans le monde grec des sanctuaires où toutes les cités grecques, se retrouvaient à des périodes définies, généralement tous les 4 ans. Et là, on organisait ce qu'on appelait des jeux qui comprenaient à la fois des concours hippiques, pour ça il fallait un hippodrome, qui comprenaient des courses, la course à pied, et là il fallait un stade, et différentes compétitions athlétiques également, et puis pour certains jeux, des concours musicaux, donc il fallait un théâtre. Donc dans ces sanctuaires, que ce soit Delphes, que ce soit Némée, que ce soit Épidore, ben vous trouvez toujours l'hippodrome. On le voit pas souvent parce que comme il était très grand, et puis bon, il a souvent disparu, mais vous trouvez toujours le stade, vous trouvez le théâtre, et vous trouvez le stade et l'amphithéâtre, en tout cas le stade pardon et le théâtre. Alors qu'est-ce qu'on y faisait dans ces stades? On y faisait de la course à pied, on y faisait du lancer de javelot et de disque, on y faisait du saut longueur, de la lutte et de la boxe. On a une très belle mosaïque qui vient de Tunisie, qui a été trouvée près de Gafsa, à Batanzamour, qui date du début du 4e siècle et qui offre un panorama partiel de ce qu'étaient ces jeux du stade. Alors elle est très abîmée, vous voyez en haut la course, hein, vous voyez les coureurs là, qui sont sur la ligne de départ, hein, Sophie vous le montrera tout à l'heure, hein, ils tiennent la barre de départ, ils partent tous en même temps. Vous remarquez là, je vais dire ça pour faire plaisir à Jean-Paul, qu'on a à la fois des vieux et des jeunes qui courent. vous voyez les deux extraits. Les deux personnages qui tiennent la barre à l'extrémité, ils ont chacun un petit cirrus sur la tête, une petite choupette. Alors ça, d'après Jean-Paul, je pense qu'il a raison, c'est le signe des juniors, des jeunes. Par contre, celui du milieu, il a la barbe, et c'est un vieux. C'est un vieux, il n'a pas sa choupette. Alors il y a deux moments de la course, on voit le départ à gauche, puis à droite on voit la course elle-même. Il y a aussi la course en armes, hein, où on portait à la fois le bouclier, le flambeau et le casque. On a la lancée du disque, ça c'est traditionnel. On a la lutte, avec des prises qui sont très très compliquées, on a du mal à voir comment les jambes s'enchaînent les unes avec les autres, puis toujours l'arbitre, bien entendu, qui contrôle. Le pancras, qui est un mélange de lutte et de boxe. Et puis le pugilat, qui est une boxe, oui, cruelle, hein, avec, enfin, sanglante. On voit d'ailleurs le personnage de gauche, vous voyez, qui saigne. Le personnage de droite, hein, qui saigne, qui a été blessé, puisqu'on a des gants avec des parties en fer, hein, des parties métalliques. C'est très, très brutal. Bon, voilà. Alors, c'est très différent du stade moderne. Hein, d'abord, parce que aujourd'hui, dans l'athlétisme, vous n'avez plus ni boxe, ni lutte. Ça ne fait pas partie de l'athlétisme, et puis c'est dans des bâtiments qui sont à part. Et puis une différence aussi importante, c'est que aujourd'hui, quand on fait la course, on la fait autour du stade. Hein, alors que dans l'Antiquité, en fait, on faisait ça au milieu. Voilà, c'était au milieu, on avait une piste de départ, une piste d'arrivée qui était au bout du stade. S'il fallait faire plus de 200 mètres, on faisait plusieurs allers-retours en faisant demi-tour à chaque fois. Alors, vous voyez qu'à Olympie, en fait, le stade, il est très simple. C'est une piste. Hein, il n'y a pas de gradin maçonnerie. Comme maçonnerie, il y a juste la loge des juges à droite et puis un petit hôtel à Déméter à gauche. Eh bien, à Rome, donc là, on est dans l'état du stade du 5e siècle, mais il y en avait un qui était bien antérieur à ça. À Rome, non seulement vous n'avez pas de stade maçonnerie, mais vous n'avez même pas d'emplacement fixe pour le stade. Jusqu'à Domitien. Pourquoi ? Alors il revient à Jean-Paul d'avoir lutté contre une idée reçue, mais qui est toujours active malgré tout, hein, qui consiste à dire, mais parce que les Romains ne connaissaient pas l'athlétisme. Ils l'ont connu, en tout cas, ils l'ont connu très tardivement, ils l'ont connu à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, sous l'influence grecque. Mais c'est faux. C'est faux. Il existait à Rome ce qu'on appelle des ludi publici, des jeux publics, qui ressemblent un petit peu aux grands jeux de la Grèce, sauf qu'à Rome, ils se tenaient tous les ans, et non pas tous les 4 ans. Il y en avait plusieurs, les plus célèbres, c'est les Magni Ludi, les grands jeux, qu'on appelle également les ludi romani. Il revient à Jean-Paul d'avoir bien montré qu'il fallait prendre au sérieux ce texte de Denis Halicarnasse. Denis Halicarnasse, il date de l'époque d'Auguste, donc on a souvent dit, bon, il fait un anachronisme. Parce qu'il raconte des jeux qui ont eu lieu au 5e siècle avant. Et regardez ce qu'il dit. Lorsque les épreuves hippiques sont terminées, ceux qui luttent avec leur propre corps entrent alors en piste, à savoir les coureurs, les boxeurs et les lutteurs. Donc, il y avait bien, dans les jeux romains, dès le 5e siècle, donc dès l'origine, des combats athlétiques également. Et ce n'est pas en contradiction avec ce texte auditif qu'on prend souvent comme référence pour dire que les Romains n'ont connu les jeux athlétiques qu'à partir du 2e siècle. Titif nous dit « Beaucoup d'artistes, alors il s'agit cette fois de jeux célébrés en 186 avant Jésus-Christ, fin 2e. » Titine nous dit, beaucoup d'artistes vinrent de Grèce pour l'honorer. Un concours d'athlètes, Athletarum Captamen, fut aussi donné en spectacle aux Romains pour la première fois. Mais ce n'est pas contradictoire. Parce que ici, les athlètes dont il est question, ce sont des vedettes. Ce sont des spécialistes qu'on fait venir de Grèce qui viennent en plus. Des jeux qu'on donne traditionnels pour donner du spectacle, comme si aujourd'hui on faisait venir pour une expédition, pour une épreuve sportive particulière, des grands spécialistes renommés pour un match d'exhibition.
On continue d'écouter Philippe Fleury, professeur de latin et directeur du Centre interdisciplinarité de réalité virtuelle de l'Université de Caen. Il nous présente cette famille de 3 empereurs qu'on appelle les Flaviens, Vespasien, Titus, Domitien.
famille passionnée par le spectacle. Vespasien, c'est lui qui a fait construire le Colisée. Titus, c'est lui qui l'a terminé. Et Domitien, lui a fait les aménagements. C'est Domitien qui a fait les sous-sols, notamment du Colisée. Et on sait qu'il était passionné par le spectacle. Mais là où c'est surtout important pour le stade, c'est qu'il a réinstitué ce qu'on appelle les Jeux capitolins. Et regardez ce texte, il est très important. Il institua également l'honneur de Jupiter capitolin, un concours qui avait lieu tous les 4 ans. Il était triple, à la fois musical, équestre et gymnique. À ce concours prenaient part en effet des écrivains de prose grecque ou latine, et pour la course du stade, jusqu'à des jeunes filles. Il le présida, vêtu d'une toge de pourpre de façon grecque. Là, vous n'en voudrez pas ici à Nîmes de faire un petit peu de latin. On en a fait ce matin d'ailleurs. Hein, parce que ce texte, il faut bien le comprendre, il faut bien le prendre au sens propre des mots. Alors d'abord, instituit, la suétone est inexacte. Il n'a pas institué les Jeux capitolins, il les a réinstitués. Ils existaient déjà depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est Camille qui, pour remercier Jupiter d'avoir protégé le Capitole de l'invasion gauloise, avait institué les Jeux capitolins, en l'honneur de Jupiter capitolin, mais ces Jeux étaient tombés en désuétude. Ensuite, ce qu'a fait Domitien, c'est qu'il a institué un concours Cartamen. Un concours, c'est l'équivalent du mot grec agon, qui se donne tous les 4 ans. Alors oui, il faut faire attention à l'interprétation du mot quinquennal. Hein, quinquennal, c'est qui revient à la 5e année, donc c'est tous les 4 ans. Ben oui, mais les Romains même avaient du mal à comprendre. Vous savez, quand César a institué les années bissextiles, il a dit que c'était quinquennalis, qu'il fallait la 5e année ajouter un jour. Et les prêtres ont mal compris. Ils l'ont fait tous les 5 ans. Voilà, ce qui fait que ça c'est... Donc là, c'est bien tous les 4 ans. De toute façon, quand vous comptez, si vous avez 2 jeux en 2000, quand vous êtes en 2004, c'est la 5e. C'est la 5e année. Donc ce ne sont pas les ludi publici, ce sont des jeux qui sont donnés tous les 4 ans. On y a fait courir des jeunes filles, in stadio hero cursu etiam virgines. Mais ce n'est pas un fantasme ni une exhibition. C'est parce que, dans le monde grec, lors des héraïas, lors des fêtes en l'honneur de Junon, eh bien, on faisait courir des jeunes filles. Et donc là, on est dans un concours grec, donc on fait courir des jeunes filles aussi. Et pour bien montrer que c'est un concours grec, Amictus toga graecanica, il est vêtu d'une toge à la grecque. Alors ce jeu capitolin, d'après le programme qu'on peut en reconstituer, des courses à pied, courses en armes, sport de combat, pentathlon, courses de femmes. Mais ce qui est surtout bien important de comprendre, c'est que Domitien a eu un programme édilitaire qui est très cohérent. C'est-à-dire qu'il a d'abord fait reconstruire le temple de Jupiter capitolin qui avait été détruit par un incendie en 80. Il a refait le grand cirque pour les courses hippiques qui étaient données aussi lors des Jeux capitolins. Il a fait construire un odéon pour les spectacles musicaux, et il a fait construire le stade pour la partie gymnique. Et ce qui est... alors, on ne peut pas dire que la monumentalisation des stades dans le monde romain date exactement de Domitien, puisque à Nisa, en Turquie, les ingénieurs romains, probablement à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on n'est pas trop sûr de la date, avaient déjà fait un stade extraordinaire en pleine montagne, dans un ravin, en occupant les deux côtés du ravin. Donc en faisant des substructions pour porter la piste et au-dessus du vide, avec le torrent qui continuait à couler en dessous. Mais il est remarquable que c'est après Domitien, donc à l'époque romaine, que les grands stades grecs, du monde grec, ont été monumentalisés.
Après ce petit jingle dont vous allez peut-être devenir accro et qui est la marque des Nocturnes de Rome que vous pouvez voir sur le web, eh bien, il est temps pour conclure d'entendre une dernière fois Sophie Madeleine. Au revoir.
Alors, je pense qu'il est maintenant temps d'aller faire un petit tour sur la piste quand même pour voir comment les athlètes pouvaient percevoir ce stade de Domitien. Et là, vous voyez, nous avons disposé des tables avec différents agrès correspondant aux épreuves d'athlétisme dont Philippe vous a parlé tout à l'heure. Vous avez ici le système d'IPEX, alors qu'il existe avec différentes variantes, mais ici, on a représenté le système avec une corde. Donc, on a un personnage qui va se mettre ici à l'arrière, qui va maintenir la corde sous tension, ce qui fait que les poteaux vont pouvoir être tenus verticalement, et au moment où il va lâcher la corde et où les athlètes vont pouvoir partir, cela va éviter les faux départs. Et puis nous avons également ici, c'est surtout des prétextes hein, pour afficher la documentation, pour vous faire voir la mosaïque de Gafsa, pour pouvoir parler de toutes les sources iconographiques qui sont à notre disposition, que nous avons installé tout ce matériel-là. C'est autant de prétextes que l'on peut utiliser pour expliquer ce qui se passait dans ce stade. Pour terminer la visite, je voudrais vous faire part d'une hypothèse, elle aussi, à manier avec prudence, mais qui me semble quand même assez pertinente. C'est une hypothèse qui a été proposée par Paola Chianciorossetto et par Jean-François Bernard il y a quelques années, qui se demande si cet édifice de spectacle n'a pas été conçu dès le départ comme un édifice hybride, pouvant accueillir d'autres types de spectacles que les spectacles d'athlétisme. Trois arguments vont dans ce sens. C'est pas parce qu'on est formé à trois parties à l'université, hein, il y a trois arguments, il aurait pu en avoir deux ou quatre, mais là encore, il y en a trois. Bon, la première chose, c'est la largeur exceptionnelle de la piste du stade de Domitien. Je vais vous donner deux chiffres. La largeur du stade de Délos, 17,50 m. Retenez ce chiffre, 17,50 m. La piste du stade de Nissa, que Philippe vous a fait voir tout à l'heure, on est quand même dans du très monumental, hein. C'est le stade qui est installé dans un vallon. 43 mètres de large, c'est déjà pas mal. Mais le stade de Domitien a une piste, alors je vais chercher la documentation, a une piste qui est large de 52,90 m. Et comme par hasard, quand je dis comme par hasard, c'est parce que je crois qu'il n'y a pas du tout de hasard, 52,90 m, c'est la mesure correspond quasiment à l'identique au petit côté de l'arène du Colisée. Il n'y aurait donc peut-être pas de coïncidence dans ces mesures. Le stade de Domitien aurait peut-être été conçu dès le départ pour pouvoir accueillir, dans certains cas, des combats de gladiateurs ou des chasses. Le deuxième argument, qu'il faut à mon avis manier avec un petit peu plus de prudence, c'est cette monnaie, très discutable, mais certains proposent d'y voir des gladiateurs armés sur la piste, il faut voir. Mais le troisième argument, qui lui me semble quand même très important, c'est que le stade de Domitien est pourvu d'un haut podium. Sa hauteur, le podium c'est le mur qui se trouve juste à la jonction de la piste. Sa hauteur a été estimée par Coligny au moment des fouilles à 3 mètres. Or, à quoi cela servirait pour des spectacles d'athlétisme? Sachant que le podium du Colisée, que je vous montre ici avec le même personnage pour la comparaison des échelles, le podium du Colisée a une hauteur de 3,60 m. Le rôle de ces hauts podiums dans les amphithéâtres est d'éviter que les animaux sauvages ne puissent monter dans les gradins pendant les chasses. Mais on voit beaucoup moins bien quelle serait l'utilité d'un podium de 3 mètres pour le stade de Domitien. Ah, peut-être. Enfin, mais ça va être le dernier élément de l'enquête. Nous savons qu'en 217 après Jésus-Christ, sous Macrin, des jeux sanglants ont bien été organisés au stade de Domitien parce que le Colisée avait été endommagé suite à un incendie. Donc, quelques mots de conclusion. Il nous semble important, dans ces journées consacrées à l'outilium, de rendre ces lettres de noblesse au stade de Domitien en termes d'aboutissement de l'architecture de spectacle. Ce stade est d'une originalité remarquable, sans précédent. Il a marqué un véritable tournant dans l'architecture des stades, qui ont été construits un petit peu plus tard dans la partie orientale de l'Empire. Deux points font finalement difficulté et se combinent pour expliquer que on n'est pas reconnu plus tôt tout le génie distillé dans cet édifice de spectacle. La première difficulté, c'est la Damnatio Memoriae de Domitien, qui n'a pas arrangé les choses, prononcée par le Sénat. Et le second, c'est le peu d'intérêt des Romains pour les spectacles athlétiques. Mais finalement, et j'espère que cette courte présentation vous en aura convaincu, ce stade a su s'insérer doublement dans la ville de Rome. Et ce, en dehors des compétitions d'athlétisme. Les circulations sous les gradins, lumineuses et aérées, offraient un magnifique lieu de promenade couvert aux habitants de Rome, parfaitement abrité du soleil, et donc en complément des autres espaces verts du Champ de Mars. Et si on ajoute à cette dimension oisive sa capacité à suppléer le Colisée en cas de besoin, et bien sûr le cadre idéal qu'il offrait aux Jeux à la grecque, il nous semble que ce stade de Domitien est un des joyaux encore trop méconnus de la Rome antique.